Deutsche Welle Afrique 7 jours.
Bonsoir et bienvenue dans Afrique 7 jours avec à mes côtés Bob Barry. Bonsoir Bob.
Bonsoir Eric Toupona.
Alors la presse allemande a beaucoup écrit sur l'Afrique cette semaine, comme toujours, et vous avez retenu deux thèmes parlants. Que sont-ils ?
Nous allons parler essentiellement de Jacob Zuma qui a échappé cette semaine encore à une motion de défiance lors d'un vote secret au Parlement. Nous allons aussi parler d'un Sud-Africain qui a quitté son pays et qui s'est retrouvé à New York, qui s'est tapé une belle carrière à la télévision.
Voilà, le pays de l'oncle Sam, c'est comme ça qu'on appelle les États-Unis. Merci Bob et vous allez rester avec nous dans ce studio puisqu'on vous retrouve donc tout à l'heure. Après l'Afropresse, nous recevrons Kemal Afayon, l'invité de la rubrique Blogosphère. Au menu de la discussion, la révocation du maire de la ville de Cotonou, la capitale économique du Bénin, Léadi Soglo, et l'engagement altruiste de la chanteuse Rihanna. Mais avant tout ça, place au temps fort de l'actualité africaine de la semaine. Les Kenyans se sont rendus aux urnes mardi dernier pour les élections générales, notamment l'élection présidentielle. Candidat pour la quatrième fois, l'opposant Raila Odinga continue d'affirmer que le système informatique des élections a été piraté. Pendant ce temps, ses partisans mécontents sont descendus dans la rue avant d'être dispersés par la police. Deux d'entre eux ont d'ailleurs été tués mercredi après-midi à Nairobi et le bilan s'est alourdi puisque qu'on parle maintenant de 4 morts. Peut-on craindre une implosion de la violence au Kenya comme ce fut le cas entre 2007 et 2008 ? Voici ce qu'en pensait mercredi dans notre édition du soir, Carole Agengo. Elle a été membre de la commission d'enquête sur les violences post-électorales de 2007 et 2008 au Kenya.
On a vraiment peur. Il y a beaucoup de tensions. Il y a quelques minutes, mon fils est sorti de la maison pour aller acheter quelques provisions. Et il n'y a presque personne dans les rues, mais je crois que maintenant, on n'est plus conscient. Je ne pense pas qu'on va arriver à l'endroit où on était en 2007-2008. Mais de toute façon, je crois qu'il y aura un peu de violence.
En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a survécu une nouvelle fois mardi à une motion de défiance à son encontre. C'est la sixième fois, il faut le rappeler, que Zuma survit ainsi à ce genre de vote. Mais cette fois-ci, cela a été très juste puisque dans un vote à bulletin secret, 198 parlementaires lui ont apporté leur soutien, tandis que 177 ont voté contre. Même si Jacob Zuma a échappé à cette destitution, Marianne Séverin, spécialiste de l'Afrique du Sud, conseille la prudence.
D'une manière ou d'une autre, pour moi, il est en sursis. Il a échappé belle, mais moi, je trouve que les scores sont quand même serrés. Maintenant, la prochaine étape, c'est décembre 2017. Il faut garder à l'esprit qu'il pourrait très bien nous faire la surprise de ben, « finalement, je me représente pour un troisième mandat ». Pour les électeurs traditionnels de l'ANC, vous avez préféré protéger un corrompu au lieu de protéger les intérêts du pays. Au sein de l'ANC, ils préfèrent régler leurs problèmes en famille. L'histoire n'est pas terminée. Hein. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas du tout terminé.
Élu en mai 2009, le président du Congrès national africain, l'ANC, est régulièrement accusé de corruption, de favoritisme, de népotisme. Au total, tenez-vous bien, plus de 700 charges de corruption pèsent sur Jacob Zuma, qui s'est engagé l'année dernière à rembourser à l'État environ 500 000 euros. Cette somme correspond à une partie des travaux de rénovation effectués dans sa propriété privée de Kandla. De De l'Afrique du Sud, on met le cap sur le cœur du continent, précisément au Tchad, dans le Tchad, où le président Idriss Déby Itno a fêté le 8 août dernier le premier anniversaire de son investiture suite à sa réélection controversée à l'élection présidentielle d'avril 2016. Un an après, que s'est-il passé ?
La situation ne fait que s'empirer. Sur le plan sanitaire, la gratuité de soins qui existait n'existe plus. Le salaire des fonctionnaires est coupé. Les prix des denrées alimentaires sont augmentés. Les prix des logements n'ont pas baissé.
La corruption est restée. La pauvreté est restée. La vie coûte cher en ce moment. Qu'est-ce qu'on va faire de nos enfants? Surtout de l'école qui se retrouve un peu pour ces jeunes-là.
Avec un an de recul, c'est vraiment une catastrophe au point de vue social et économique. Et donc, les premiers jours n'ont fait qu'enfoncer le pays.
Voilà des Tchadiens déçus pris au vol dans les rues de N'Djamena par notre correspondant Daruston Blaise. Pour sa part, Jean-Bernard Padaré, le porte-parole du parti au pouvoir, le MPS, estime que tout est rose au Tchad, c'est-à-dire il n'y a aucune arrestation arbitraire et la justice s'applique avec rigueur à tous ceux qui ne respectent pas la loi. Bref, il fait bon vivre au Tchad, selon toujours Jean-Bernard Padaré. Nous ouvrons ce Tafopresse avec l'actualité en Afrique du Sud où malgré les multiples mobilisations de l'opposition et des syndicats pour dénoncer la corruption qui gangrène la présidence de Jacob Zuma, eh bien ce dernier reste en poste, Bob Barry.
Naturellement qu'il n'est pas difficile de dresser aujourd'hui l'image d'une république bananière lorsqu'il s'agit de parler de l'Afrique du Sud. Même s'il y a de moins en moins de bananes en ce moment dans le pays, écrit le journal du Deutsche Zeitung. Selon le quotidien bavarois, c'est cette image que nous livre le président Jacob Zuma, celle qui ressemble à la caricature d'un dictateur présentée de la manière la plus grossière pour des faits de corruption comme on en a depuis très longtemps plus vécu en Afrique. Jacob Zuma est une honte pour l'Afrique du Sud, s'exclame la Süddeutsche Zeitung. Voilà un président qui se laisse construire des villas, distribue des marchés publics de gré à gré à ses enfants et vend des postes ministériels à une famille d'entrepreneurs. La politique menée par Jacob Zuma, poursuit le journal, obéit à une simple stratégie. Sous l'apartheid, les Blancs avaient tout. Maintenant, c'est notre tour et surtout, c'est le mien.
Autre sujet, Bob Barry, Trevor Noah, la star de la télévision, revient sur son enfance difficile en Afrique du Sud.
Et c'est toujours la Süddeutsche Zeitung qui revient sur la vie de cet animateur hors pair avec cette petite phrase « Quelqu'un doit pouvoir encore faire comme ce qu'a réussi Trevor Noah. Cet homme de couleur a fui son pays, l'Afrique du Sud, pour gagner New York parce que, dit-il, les menaces de mort contre sa personne étaient devenues persistantes. À New York, cet inconnu des médias va pourtant très vite se forger une carrière à la télévision avant de devenir l'un des animateurs les plus populaires de l'émission Daily Show. Dans une autobiographie intitulée « Né comme un criminel », Trevor Noah, fils d'une Sud-Africaine et d'un père germano-suisse, revient sans aucune complaisance sur une enfance difficile vécue dans les bidonvilles de Johannesburg. Il explique comment, en tant que métis, il a vécu l'apartheid qui bannissait les relations entre les Blancs et Noirs. La Süddeutsche Zeitung explique par ailleurs comment la mère de Trevor Noah ne pouvait pas tenir la main de son fils dans la rue de peur de se voir arrêté et jeté en prison. Le livre a déjà gagné plusieurs prix et occupe aujourd'hui Eric Topona la première place des meilleures publications selon le classement du journal New York Times. Un livre donc à recommander.
Oui, il faudra acheter ce livre. Merci beaucoup Bob Barry et très bonne fin de semaine à vous.
Merci beaucoup.
Blogosphère.
Au Bénin, suspendu après son audition du 28 juillet dernier, le maire de la ville de Cotonou, la capitale économique du pays, Léadi Soglo, a été révoqué début août par le gouvernement dirigé par Patrice Talon. Une procédure inédite au Bénin après environ 15 années de décentralisation et qui reste tout autant controversée, n'est-ce pas, Kemal Afayon?
Oui, tout à fait. Donc, cette révocation du maire de Cotonou constitue en fait une grande première au Bénin. Le Bénin qui connaît depuis une quinzaine d'années un processus de décentralisation qui, bon gré mal gré, suit son cours. Donc comme vous avez pu le noter, donc les faits remontent au 28 juillet où le préfet, donc Modeste Touboula, avait auditionné le maire et ses adjoints. Alors il ressort de l'audition en fait que le maire a accordé au préfet, donc qu'il est accusé entre autres d'abus sur des primes de maintien d'ordre octroyées à lui seul. Il est également accusé de l'augmentation de plus de 100% des frais de représentation en 2017, sans délibération du conseil municipal.
Oui, on sait que Léadi Soglo a été quand même élu non-maire de la ville de Cotonou. Est-ce que c'est normal qu'il puisse être révoqué par les autorités politiques et administratives?
Le cas des maires au Bénin est assez intéressant parce que dans le pays, les maires sont les seules autorités politiques dont l'élection n'est pas prévue par la Constitution, mais en fait elle dépend plutôt d'une loi en fait. Donc à travers cette loi, le législateur a prévu la possibilité de destituer les maires en cas de désaccord avec leur conseil ou de crise de confiance politique.
Oui, mais n'empêche que selon la loi béninoise, le maire, même s'il commet des fautes, peut être suspendu pour une durée n'excédant pas les 3 mois. Mais or là, Léadi Soglo a été suspendu, mais sauf à me tromper, sa suspension n'a pas atteint les 3 mois.
Ce mécanisme n'a jamais été utilisé depuis la mise en place des conseils communaux au Bénin. Je crois que cette mise en place qui remonte en 2002. Donc, de ce que j'ai pu voir au niveau des avocats du maire, justement, on est en train d'organiser la défense. Donc, il y a une défense qui se prépare. On a pu noter, par exemple, au niveau des avocats, des dénonciations relatives à des vices de procédure. Cet avocat estime, par exemple, que le maire n'est pas comptable et ne peut, par conséquent, avoir en sa possession des documents comptables.
C'est bientôt la fin d'Afrique 7 jours au micro. C'était Eric Topona et je vous quitte sur ce proverbe béninois. Si tu manges le fruit d'un grand arbre, n'oublie pas de remercier le vent. À très bientôt sur les ondes de la Deutsche Welle.